en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Dans le cadre du colloque Les Frères Rénac, qui s'est déroulé le 22 et 23 juin 2007 sous l'égide de l'Académie des inscriptions et belles lettres, Canal Académie vous propose d'écouter la communication de l'helléniste Jacques Joanna, membre de l'Institut, intitulée « Sophocle est-il entré à la Villa Kérylos ?» Écoutons Jacques Joanna devant ses confrères et de nombreux invités en grande salle des séances.
Entrant dans la Villa Kérylos, qui a été léguée à l'Institut de France par Théodore Rénac, laissons la parole à son conservateur, notre secrétaire perpétuel, en reprenant un extrait de l'une de ses présentations dans la série des colloques de la Villa Kérylos, dont la publication annuelle fait honneur à notre académie. Vous savez sans doute comment cette reconstitution unique d'une demeure antique, dont le modèle le plus proche est celui des maisons de l'île de Délos, a été conçue et réalisée entre 1903 et 1908 par l'incomparable érudit que fut Théodore Rénac et son ami l'architecte Emmanuel Pontremoli. Entre le bleu du ciel et l'azur des flots, la villa grecque profile ses proportions harmonieuses, avec en arrière-fond le mur vertical des grandes falaises d'Èze qui rappelle les roches phédriades de Delphes. Cette belle évocation servira de prélude à mon intervention qui portera sur la statue que l'arrivant découvre à l'entrée. Lorsqu'il a franchi le Tyroréion et pénètre dans le Proholéion, ses yeux se lèvent vers une statue contre le mur du fond. Elle se situe dans un espace de transition. Le commentaire de l'architecte Pontremoli est suggestif à cet égard. Je le cite. « À l'ardeur du climat et à l'intensité de la lumière s'opposent dès l'entrée le calme et la fraîcheur du péristyle. Pour mieux ménager les esprits et les corps, l'ombre du Tyroréion les accueille. Par cette transition seulement et la pénombre du Proholéion, l'arrivant découvre peu à peu cette enceinte dont il ne voyait d'abord qu'un angle et qui par ses proportions, ses colonnes, ses fresques, son dallage, sa vue du ciel, son jet d'eau et son laurier rose donne à son âme la paix et la douceur. La statue est donc dans la pénombre, entre l'ombre du Tyroréion et la douce lumière du péristyle. La présente photo, publiée par l'architecte lui-même, donne une idée de l'organisation de l'espace et des effets de lumière qu'il recherchait. De quelle statue s'agit-il? À la différence des moulages de la galerie du sous-sol, la statue appartient au mobilier de la villa habitée par Théodore Rénac. Pour présenter l'original du moulage, laissons la parole à Joseph Chamenard, ancien membre de l'école d'Athènes, ami de Pontremoli, auquel l'architecte avait demandé d'ajouter une courte description pour accompagner le choix des planches qu'il publiait. Contre le mur du Proholéion, a été placé un moulage de la statue bien connue du musée du Latran, représentant sans doute Sophocle. On retrouve la même indication avec la suppression de « sans doute » dans le site de l'Institut de France, moulage d'une statue de Sophocle. Sophocle serait donc entré dans le sanctuaire de l'érudit, où il aurait eu une place de choix. Personne apparemment n'y trouvera à redire, car dans les ouvrages classiques de référence sur les portraits antiques, celui de Gisela Richter ou celui de Karl Scheffold, la statue est bien attribuée à Sophocle et il n'y a pas la moindre trace d'un doute émis sur son attribution. Voici un extrait de la notice de Gisela Richter. Statue, auparavant au musée du Latran, actuellement au Vatican. Hauteur 2,04 m, hauteur de la tête 25,5 cm. Après la notice viennent sept références bibliographiques, dans lesquelles il n'est point question de Théodore Rénac. Pourtant, l'érudit, qui possédait le moulage de la statue depuis plus de 10 ans, est intervenu en 1922 dans un long article du Journal of Hellenic Studies, intitulé « Poète ou législateur », pour mettre en cause l'attribution traditionnelle de la statue à Sophocle, ce qui déclencha une vive polémique franco-allemande que je voudrais faire revivre devant vous. Cette polémique, étonnamment oubliée par les modernes, a place dans un colloque sur les Rénac, et elle n'est pas déplacée dans l'enceinte de notre académie, si attentive à l'histoire de ses membres, Théodore était membre libre depuis 1909, et si attaché à faire revivre la Villa Kérylos dans son contexte historique, en tenant compte des intentions du grand érudit qui a choisi les anciens qu'il a fait entrer dans ce microcosme où l'Antiquité ressurgit dans les temps modernes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est de mon devoir de vous expliquer comment j'en suis arrivé à redécouvrir cette querelle pour présenter sous forme de plaidoyer pro domo mes excuses auprès de mes éminents confrères spécialistes de la statuaire d'avoir la présomption d'aborder un sujet étranger à un philologue. Ce n'est pas en partant de Délos que je suis venu à Beaulieu, comme notre confrère et ami Jean-Marc Cadet, retraçant un très bel itinéraire à la fois savant et personnel dans le sixième colloque de la Villa Kérylos de 1995 sous le titre « De Délos à Beaulieu ». S'il me fallait pasticher son titre, je dirais « De Sophocle à Beaulieu ». De fait, au moment où je mets la dernière main à un Sophocle qui doit paraître à l'automne chez Fayard, j'ai discuté avec le directeur de la collection, Denis Maraval, sur le portrait qui doit orner la couverture. Je me suis donc replongé dans les portraits de Sophocle, en ne négligeant aucun outil d'approche, même Internet. De la sorte, je suis tombé sur la première page d'un article de Franz Studniska, intitulé « The Sophocles Statues », paru dans le Journal of Hellenic Studies de 1923. Il s'agit d'une page d'appel lancée par l'organisation Gistor, qui offre une bibliothèque numérique des revues. La page m'intrigua car cet article n'était ni dans ma bibliographie ni dans celle de Gisela Richter. Or, il apparaissait que le savant allemand se livrait à une critique d'un article de Theodor Reinach. À partir de là, je suis remonté à la source et j'ai démêlé les chevaux de cette querelle qui opposa durant les années 1922-1924, dans cette publication au moins, Theodor Reinach à deux représentants de l'érudition allemande, d'abord Franz Studniska, puis Walter Amlung. Ce n'est donc ni en spécialiste de Theodor Reinach, ni de la statuaire que j'ai abordé ce sujet, ni en spécialiste de Sophocle, attaché dans tous les domaines qui le touchent, épigraphique, archéologique, historique, littéraire, à adopter la même attitude, c'est-à-dire à remonter aux sources premières. À cet égard, la lecture de l'article de Theodor Reinach consacré à la statue dite du Latran, dont la photo apparaît en première page de l'article, a été pour moi un enchantement par la clarté de l'argumentation, par le souci que l'auteur manifestait de remonter aux sources premières et par son esprit d'indépendance. Voici la présentation de cet article qui met en cause avec détermination et passion la thèse de l'attribution de la statue à Sophocle. Bien que Theodor Reinach souligne l'importance historique de la découverte de la statue, qui a engagé le pape Grégoire XVI à transformer une partie du palais du Latran en musée, et bien qu'il admire la qualité artistique de l'œuvre, il va s'attaquer à l'interprétation traditionnelle avant d'en proposer une nouvelle. Il commence par un développement comportant une foule d'informations sur l'histoire de la statue et de son attribution que je ne puis détailler ici. La statue provient des ruines de Terracina, appelée aussi Anxur, l'ancienne cité des Volsques, et fut donnée par le comte Antonelli à Grégoire XVI au printemps 1839, comme l'indique l'inscription gravée sur le piédestal. Quelques mois plus tard, lors de l'anniversaire de Winckelmann, fêté par l'Institut archéologique de Rome le 9 décembre 1839, le marquis Melchiori révéla au public érudit la découverte sensationnelle et s'attribua le mérite d'avoir identifié la statue comme étant Sophocle. Theodor Reinach signale aussi le rôle du sculpteur italien Pietro Tenerani, chargé de restaurer la statue. Il passe en revue tout ce que le sculpteur a restauré, ce qui lui permet de dénoncer au passage, non sans causticité, les enthousiasmes des adeptes de Sophocle qui en perdent leur esprit critique. Je cite Theodor Reinach. Que dois-je dire des arguments tirés du costume ? Si désireux ont été certains critiques de détecter un trait sophocléen distinctif dans l'arrangement si attentionné et si raffiné du costume, que l'un d'entre eux, un Allemand, a insisté dans son enthousiasme sur l'étonnante élégance des sandales qui, comme nous l'avons vu, aussi bien que les pieds eux-mêmes, sont l'œuvre entière de l'Italien Tenerani. L'érudit visé, comme il est indiqué en note, est l'archéologue Amlung, dont il sera question dans la suite de la polémique. Mais on commence à voir poindre, dans l'adjonction de un Allemand, la rivalité entre l'érudition française et l'érudition allemande à cette époque-là. C'est dans ce climat tendu, je le rappelle, qu'avait été créée en France, notamment sous l'égide de Paul Mazon, la collection des universités de France, dont les premières éditions paraissaient dans ces mêmes années 1920. Une fois les arguments subjectifs écartés, il ne reste, selon les mots de Théodore Reynac, qu'un argument palpable, indéfiniment répété, depuis le jour où Melchiori l'a avancé pour la première fois, c'est la ressemblance supposée, mot souligné par Reynac, entre la tête de notre statue et un petit buste de la salle des musées du Vatican. Buste identifié par une inscription mutilée en son début. On lit la fin Oclès et Théodore Reynac, dans ce premier article, accepte la restitution traditionnelle de Sophocle. C'est ce rapprochement entre les deux têtes que Théodore Reynac met en doute. Par-delà les ressemblances attendues dans les représentations non réalistes d'Athéniens bien nés de 40 à 50 ans, présentant des traits réguliers sans individualité marquée, une chevelure abondante avec une bandelette dans les cheveux et une barbe divisée en boucles épaisses, Théodore Reynac souligne des différences. Je cite. Pour postuler une relation spéciale, soit de filiation, soit de parenté entre deux spécimens d'un type aussi largement reproduit, une comparaison minutieuse devrait révéler quelques parallèles réellement caractéristiques. En réalité, ce que nous trouvons est exactement le contraire. Bien qu'étant petit et de facture peu soignée, le buste du Vatican, quand on l'examine avec soin, présente des traits plus individualisés que la tête du Latran. La mâchoire inférieure donne un contour plus allongé, les rides du front plus marquées sont celles d'un vieillard, les boucles du milieu de la barbe sont plus larges, les yeux plus enfoncés dans leur orbite, l'arc des sourcils un peu plus haut et plus pointu, et tout cela concourt pour donner à la tête du Vatican une expression nettement pensive, une expression presque boudeuse, contrastant fortement avec la sérénité hautaine qui règne dans la tête du Latran. Et pour appuyer son analyse des différences, il note que certaines d'entre elles avaient été remarquées par le Suisse Bernoulli dès 1901, mais que ce dernier s'était rallié en définitive à l'opinion commune. Après quoi Théodore Reynac poursuit. Moi, pour ma part, je ne peux voir dans une telle conclusion, ou plutôt capitulation, que le puissant effet de la routine et un respect indu pour l'infaillibilité allemande. Ici éclate le double registre de l'analyse, une saine réaction contre l'emprise de la routine et une réaction plus passionnelle contre le poids de la science allemande. Après avoir contesté l'unique argument sur lequel repose l'attribution de la statue à Sophocle, on aurait pu penser que Théodore Reynac allait passer à sa nouvelle attribution. En réalité, il veut parfaire sa critique en examinant l'autre type de portrait attribué à Sophocle. Il y a deux grands types de portraits de Sophocle. Le type dit du Latran doit son nom à la statue du Latran qui est au centre de notre discussion, bien que le document à l'origine de ce type ne soit pas la statue, comme nous venons de le voir, mais le buste de la salle des muses du Vatican, puisqu'il est identifié par l'inscription de Sophocle mutilé, il est vrai, en son début. Théodore Reynac, après avoir traité de ce type, qui est dans les ouvrages modernes le type 2, en vient à examiner le type dit Farnèse, qui est actuellement le type 1. La tête de file de ce type est un buste de marbre en médaillon avec le nom de Sophocle, en entier cette fois, trouvé dans une tombe près de la porte Aurelia, qui a appartenu à la collection de Fulvio Orsini avant de passer au cabinet Farnèse, d'où le nom de type Farnèse. L'objet a disparu après 1775, mais on en a conservé un dessin fiable du XVIe siècle dans un manuscrit du Vatican reproduit ici. Il représente un Sophocle âgé. Les partisans de la thèse traditionnelle ont pensé que les deux types remontaient à deux statues différentes. Le type Farnèse, représentant un vieillard, remonterait à la statue de Sophocle érigée par son fils Iophon, dans le sanctuaire où Sophocle fut héroïsé après sa mort sous le nom de Dexion pour avoir introduit le culte d'Asclépios à Athènes. Le type du Latran remonterait à la statue que l'homme d'État athénien Lycurgue a fait ériger au IVe siècle dans le théâtre d'Athènes, en même temps que les statues d'Eschyle et d'Euripide. Théodore Reynac, quant à lui, utilisant habilement des phrases de Bernoulli livrant ses hésitations sur l'existence réelle de deux séries de portraits pour un même homme, en tire la conclusion que seule une série représente Sophocle, celle du Farnèse. Après avoir ainsi critiqué la thèse traditionnelle, Théodore Reynac propose une identification tout à fait nouvelle. Selon lui, l'attitude de la statue du Latran n'est pas celle d'un homme de théâtre, mais celle d'un orateur. Il fait d'intéressantes considérations sur l'attitude comparée des orateurs athéniens du 5e et 4e siècle en s'appuyant sur les textes. En particulier, il cite un passage d'Échine dans le Contre-Timarque. Les anciens orateurs, Périclès, Thémistocle, Aristide, étaient si réservés que ce que nous avons tous l'habitude de faire maintenant, d'avoir le bras dénudé quand nous parlons, était à ce moment-là jugé inconvenant, et ils se gardaient de le faire. Ce texte montre qu'il y a eu une évolution dans l'attitude des orateurs entre le 5e et le 4e siècle. Il oppose l'attitude réservée des orateurs du 5e siècle, où le bras était à l'intérieur du manteau, à celle des orateurs du 4e siècle, où le bras était dégagé du vêtement. Théodore Reynac rappelle ensuite qu'un seul orateur du 4e siècle avait conservé cette attitude archaïsante, à savoir Échine lui-même. Aussi compare-t-il à la statue du Latran, la statue d'Échine provenant d'Herculanum, conservée à Naples. Il note la ressemblance évidente dans l'attitude et dans le drapé, ce qui confirme sa conviction que la statue du Latran représente un orateur, mais il souligne la différence dans les visages et déclare « Si nous comparons les têtes de nos deux statues, il n'y a pas la moindre possibilité que la statue du Latran puisse représenter Échine ». C'est alors que Théodore Reynac revient au texte du Contre-Timarque, dont il n'avait donné qu'une partie pour ménager ses effets. Voici la suite du passage d'Échine. « Je puis vous en montrer une grande preuve qui est effective. Je sais bien que tous vous avez fait la traversée pour Salamine et que vous avez vu la statue de Solon et de vous-même vous pourriez témoigner que sur la place de Salamine se dresse la statue de Solon ayant le bras à l'intérieur du vêtement. » C'est cette partie du texte qui est à la base de la proposition de Théodore Reynac de voir dans la statue du Latran une copie en marbre de la statue en bronze du Solon de Salamine, car la posture est exactement la même, le bras de la statue est à l'intérieur du drapé. Enfin, pour appuyer sa conclusion, Théodore Reynac compare la tête de la statue du Latran avec un Hermès du musée des Offices de Florence portant l'inscription de Solon. Les deux têtes lui paraissent semblables. Toutefois, il est obligé de reconnaître, à la suite d'une observation d'un Allemand, Dutzke, que dans le cas de l'Hermès de Florence, la tête n'est pas du même marbre que le corps. Néanmoins, il maintient que la tête et le support, tout en n'étant pas formés du même matériau, ont pu être ensemble dès l'origine. Sa position sur ce point précis est assez délicate. En bref, Théodore Reynac voit donc dans la statue dite de Sophocle du Latran une copie romaine en marbre, non pas de la statue en bronze de Sophocle érigée au théâtre d'Athènes, mais de la statue en bronze de Solon érigée sur la place de Salamine, œuvre qui daterait des années 390 avant Jésus-Christ et serait sculptée par Képhisodote, le père de Praxitèle. Cet article a suscité une réaction rapide de Franz Studniska, un strict contemporain de Théodore Reynac, professeur d'archéologie classique à l'université de Leipzig, qui s'est fait le défenseur de la thèse traditionnelle, dans l'article du premier fascicule du Journal of Hellenic Studies de 1923, que j'ai déjà mentionné puisqu'il a été à l'origine de ma recherche. Il n'y a pas lieu de rentrer dans le détail de la critique, mais d'en souligner le ton. L'article commence par une attaque contre le défaut de la cuirasse, cet Hermès de Solon du musée des Offices, où la tête ressemble à la tête de la statue du Latran. L'érudit allemand l'interprète, lui, comme une tête de Sophocle posée sur un Hermès de Solon, et il qualifie dès le début de grave erreur la position de Théodore Reynac. Studniska ne manque pas de manifester aussi son incompréhension devant ce que Théodore Reynac a dit du respect indu pour l'infaillibilité allemande. Il réaffirme enfin l'existence de deux types correspondant à deux statues originales, celle de Jophon et celle de Lycurgue. Ainsi s'explique le pluriel du titre de son article « Les statues de Sophocle ». La réplique de Théodore Reynac ne se fit pas attendre. Elle est parue dans le second fascicule du Journal of Hellenic Studies de la même année sous le titre « The Sophocles Statue, a Reply ». On appréciera le jeu subtil dans les titres sur le singulier et le pluriel ainsi que sur les guillemets. Aux deux statues de Sophocle de Studniska s'oppose la prétendue statue de Sophocle, selon Théodore Reynac, qui réaffirme ses positions avec énergie et les précise. Il revient sur la comparaison entre la tête de la statue du Latran et celle du buste de la salle des Muses pour renforcer les différences. Il revient sur le drapé de la statue qui correspond à la posture d'un orateur, point sur lequel Stulniska est resté silencieux. Et c'est là que Théodore Reynac apporte du nouveau, car il a trouvé un allié de poids dans l'histoire du costume de Léon Heusée, qui venait de paraître juste après la mort de son auteur. Reynac cite triomphalement ce que Heusée dit pour illustrer le fameux passage du contre-Timarque d'Échine sur l'attitude des anciens orateurs. La position du manteau sur les deux épaules, déclare Heusée, produit un jeu de draperie très mouvementé. On peut en juger par quelques statues où les artistes se sont efforcés de conserver la tenue des anciens orateurs. Telle est, par exemple, la prétendue statue de Sophocle. Léon Heusée, parlant de la prétendue statue de Sophocle, contestait donc lui aussi l'attribution de la statue du Latran à l'auteur tragique, et il y voyait, comme Théodore Reynac, la statue d'un orateur, sans toutefois se prononcer sur l'identification. Cette réplique de Théodore Reynac entraîna une dernière réponse de Studniska dans la même revue l'année suivante, donc en 1924, intitulée « One more Sophocles and not Solon ». On aurait pu croire que le combat allait cesser faute de combattants, les deux protagonistes étant restés sur leur position. Mais Théodore Reynac, dans son article initial, s'était fait un ennemi de l'érudit qu'il avait frappé de plein fouet. On se souvient de ce savant allemand qui avait admiré la grâce des sandales de Sophocle alors que les pieds sont l'œuvre du sculpteur italien. Il fallait s'attendre à une réaction de l'érudit blessé. Il s'agit de Walter Amlung, de nationalité allemande, membre associé à l'Académie pontificale romaine d'archéologie, l'auteur du catalogue des sculptures du Vatican. Amlung est intervenu à 3 reprises, une fois après le premier article de Reynac, puis 2 fois après la réponse de Reynac à Studniska, notamment dans un article développé en italien intitulé « Il ritratto di Sophocle » paru en 1924 dans les actes de l'Académie pontificale romaine d'archéologie. Au cours de cet article, qui n'a pas la lourdeur de l'artillerie de Studniska, Amlung reconnaît avec humour sa faute d'avoir admiré les sandales de la statue « Pater Pekawi » ou « Pamea ». À la différence de son collègue, Amlung traite Théodore Reynac avec une certaine déférence, encore qu'il relève lui aussi la remarque sur l'infaillibilité germanique. Mais il va faire retomber sa vengeance sur un jeune érudit français qui n'avait commis que la faute de vouloir rendre service à Théodore Reynac dans une affaire qui ne le concernait pas directement. Quelle est cette grave affaire ? Elle tourne autour de l'existence ou de l'absence d'une lettre grecque, un phi, dans l'inscription mutilée à la base du buste de la salle des Muses, dont nous avons vu qu'il est la tête de file du type dit du Latran. Dans sa réponse à Studniska, Théodore Reynac avait ouvert un nouveau champ de bataille en reprochant à son collègue allemand d'accepter sans esprit critique la lecture d'un phi devant Oclès. Le nouvel enjeu pour Reynac, après avoir accepté dans son premier article la restitution de Sophocles comme la plus vraisemblable, était de montrer maintenant que la restitution n'est pas une lecture, mais une conjecture, et que l'on peut lire tout aussi bien le nom de Dioclès, médecin du IVe siècle, ou même de Empédoclès, philosophe et peut-être médecin du Ve siècle. Dans ces conditions, le document de base du type du Latran perd son identité sophocléenne. Pour avoir la confirmation de ce fait, à savoir l'absence du phi, Théodore Reynac a fait appel à un jeune membre de l'école de Rome, Marcel Durie, qui lui a envoyé un dessin où le phi n'apparaît pas et qui avait accompagné son envoi du commentaire suivant. Le Helbisch se trompe lourdement en parlant de 6 lettres. Du phi, si jamais il a existé, il n'y a aucune trace. On ne peut pas supposer une fracture postérieure à la découverte puisque ce buste semble être entré immédiatement dans les collections pontificales. Or, c'est contre cette critique appuyée du jeune Durie adressée au Helbisch que le vieux Walter Amlung va réagir car c'est lui-même l'auteur de la lecture dans la 3e édition du Helbisch Führer. Dans son article italien, Hamelon donne un dessin où l'on voit la partie supérieure de la hache du Phi, et il adresse à Marcel Bury, le futur professeur de latin à la Sorbonne, la gracieuseté suivante. « Je regrette de devoir combattre ici énergiquement les affirmations de mon jeune collègue dont le zèle intelligent le mettra certainement en mesure de rendre la science dans le futur des services meilleurs. Walter Hamelung a exercé sa vengeance sur le disciple pour épargner le maître. » De cette polémique entre érudits français et allemands, on peut tirer une réponse évidente à la question que j'ai posée au début. Dans l'esprit du propriétaire de la villa Kérylos, ce n'est pas Sophocle qui est entré chez lui, mais Solon. Il est du devoir de notre institut de rétablir une vérité subjective sur la statue de la villa Kérylos pour témoigner notre reconnaissance éclairée au légataire en respectant dans sa demeure les idées qu'il avait farouchement défendues à l'extérieur. Cette vérité subjective peut-elle se transformer en vérité objective ? Théodore Reynac avait-il raison de mettre en doute l'attribution à Sophocle de la statue du Latran ? C'est une autre question qui ne sera pas traitée ici. Toutefois, même si l'identification proposée par Théodore Reynac n'est pas plus convaincante que la thèse traditionnelle, sa défiance des enthousiasmes irraisonnés, son désir constant de revenir aux sources, reste un modèle de méthode dont les érudits modernes, trop enclins à attribuer main portrait à Sophocle sans aucun esprit critique, devraient encore se souvenir.
Vous venez d'entendre la communication de l'helléniste Jacques Choana, membre de l'Institut, intitulée « Sophocle est-il entré à la Villa Kérylos ?» dans le cadre du colloque « Les frères Reynac » qui s'est déroulé le 22 et 23 juin 2007 sous l'égide de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.